Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérop.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, de Montpellier, mais nous allons en sortir pour aller dans les vignes et les caves. Mon invité est en effet le directeur technique de l'AOC Languedoc, Jean-Philippe Granier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez un parcours dans le vin à partir de votre formation de pharmacien et d'œnologue. D'abord responsable du bar à vin, les anciens montpelliérains connaissent, dans l'hôtel des vins que les Coteaux de Languedoc avaient ouvert rue Jacques-Cœur. Puis en indépendant, œnologue conseil dans la région, avant, en 1990, de rejoindre le syndicat des Coteaux de Languedoc, un peu l'ancêtre, le piédestal de l'AOC actuel. Coteaux de Languedoc, vous avez ouvré depuis qu'en 2007, il s'est étendu en Languedoc. Votre métier, organisateur, formateur, communicant, animateur, stimulateur, bon, les auditeurs, les auditrices en jugeront. Vous êtes aussi vigneron. Et dites-nous.
Oui, Alain, je suis vigneron dans le Gard. Ah. Je suis né à Montpellier, mais mon père était vigneron d'origine dans un village remarquable qui s'appelle Asper, à côté de Sommières. Et c'est à la frontière entre...
Oui, vous franchissez le Vidour facilement.
Tout à fait. On était à la frontière entre l'Hérault et le Gard. Et c'est une propriété familiale qui est gérée par mon frère et je suis associé avec lui. Donc, on essaie de faire la promotion des vins du Gard. Et je sais qu'un ancien responsable de communication du Gard,
oui.
Vous aviez été un des fervents défenseurs des vins du Gard.
En effet. Alors, avant de parler vins... Racontez-nous votre Montpellier. Vous êtes né en 1957, vous venez de l'indiquer. Vous y avez fait vos études et vécu une grande partie de vos activités. Vous êtes à la fois un observateur, mais aussi un acteur des mutations que la ville a connues. Que pensez-vous de la croissance et des changements que Montpellier a connus depuis une vingtaine ou une trentaine d'années?
Quel jugement vous portez? Si je prends dans mon secteur, qui est le vin... Il y a 40 ans ou 50 ans, les Montpelliérains, la bourgeoisie montpelliéraine, buvaient du Bourgogne ou du Bordeaux, beaucoup de Bordeaux. Et cette mutation a été faite dans les années 80. Considérons que certains avaient commencé dans les années 70, 75.
Une cinquantaine d'années, quoi.
Ah oui, une cinquantaine d'années. Les Montpelliérains ont retrouvé, en fin de compte, l'histoire du Languedoc, c'est-à-dire l'histoire qualitative des vins du Languedoc et des terroirs du Languedoc. Saint-Chinian, Faugère, Pixelot, ainsi de suite, Terrasse du Larzac, ça c'est nous qui l'avons un peu créé. Mais Montpérou, Saint-Saturnin, Saint-Christol, Saint-Dréserie. Donc tout ça, c'est vraiment une révélation au public, au grand public. Et ce bar à vin dans lequel j'ai travaillé, qui était le premier bar à vin, il ne faut pas oublier, le premier bar à vin avec des vins du Languedoc, c'était en 1983, décembre 1983. Et aujourd'hui, il y a 38 bars à vin à Montpellier. Où 60-70% des vins sont des vins de la région Occitanie ou Languedoc, surtout Languedoc-Roussillon. Donc tout ça, c'est très important de voir qu'en fin de compte, on a été à l'initiative, et on n'en a pas parlé, mais on va en parler certainement, de Jean Clavel, celui qui a mis le pied à l'étrier à tous ces vignerons. Certains ont continué à faire un peu n'importe quoi, mais d'autres, comme les grands vignerons qu'on connaît, Julien et d'autres, sont des précurseurs de la qualité il y a plus de 40 ans. Et aujourd'hui, on est reconnu dans l'appellation d'origine contrôlée Languedoc par cette qualité de terroir. Et ça, c'était ma motivation. Donc ma passion, c'était le goût du vin, le goût du terroir. Et aujourd'hui, on le redéveloppe. Et aujourd'hui, on arrive en France dans les guides. Hier encore, j'ai acheté le guide de la RVF ou du guide Bétane de Sauve. On est quand même, on a une vingtaine de pages, alors qu'avant, on n'avait que 2-3 pages.
Oui, alors ça, c'est un phénomène que les gens de notre génération, en tout cas de la mienne, ont pu connaître. Et donc peut-être, d'ailleurs, les plus jeunes ne perçoivent pas en quoi ça a changé fondamentalement la production. Bon, à l'époque, on disait bibine pour les vins du Languedoc. Donc, on en est sorti et il y a déjà quand même quelques années. Quoi.
Tout à fait. Alors, il y a eu quand même des mouvements importants de communication.
C'est-à-dire... Alors, on va y venir, là. Restons quelques minutes sur Montpellier. Quand vous parlez de Montpellier à des amis de passage ou des parents de passage, qu'est-ce que vous dites de la ville en vous improvisant la guide de l'office de tourisme?
Ah ben moi, je suis né à Montpellier. Montpellier, c'est toute l'histoire de Montpellier est très riche au niveau de la viticulture. Montpellier, il y a toutes ces maisons bourgeoises, tous ces hôtels particuliers. Moi, j'ai la chance d'avoir épousé une Montpelliéraine de souche et qui habitait le rue Saint-Lévesque dans ces vieux hôtels particuliers, l'hôtel Bocaux, et c'est vraiment remarquable. Donc, on a cette richesse à l'intérieur de Montpellier. Puis, on a des personnages quand même qui ont développé Montpellier, comme Georges Frêche, et qui ont développé des festivals. Ensuite, Hélène Mandrou qui a développé les estivales. Donc, il y a vraiment dans Montpellier la possibilité d'avoir un cinémède, d'avoir un festival de danse, d'avoir un festival. Le département a aussi développé le domaine d'eau. Donc, tout ça, pour moi, c'est une richesse. Et puis, la beauté de cette ville. Alors bon, c'est vrai que des fois on se plaint un tout petit peu des quatre poubelles. Oui, c'est vrai que mais c'est le citoyen qui est responsable. C'est pas les éboueurs, c'est pas ceux qui enlèvent les poubelles. C'est le citoyen qui fait n'importe quoi. Donc là, je suis un peu furieux là-dessus. Mais quand on veut un peu décompresser, ben on va sur le Pérou. On va au Pérou, on va se balader au Pérou.
Et c'est un de vos endroits favoris, mais il y en a d'autres, des endroits favoris, peut-être moins connus que le Pérou, des endroits que vous affectionnez.
Ah oui, moi j'aime bien les Halles, les Sacs en bas, elles sont nouvelles, elles ont été reconstituées, mais c'est quand même quelque chose de bien. Je pense que les Halles Castellane aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que les produits... Alors, il faut faire mieux, parce que par rapport à Narbonne, par rapport à Béziers, les Halles ont quand même quelques soucis, mais je pense que c'est quand même des lieux intéressants. La place de la Comédie, l'Esplanade. Moi, j'ai créé les Estivales en 2005 avec Hélène Mandrou sur l'Esplanade. L'Esplanade, c'est une promenade remarquable. J'ai fait mes études au lycée Joffre et j'ai fait pharmacie à la fac de pharmacie. Donc tout ça, pour moi, Montpellier, c'est une ville et je suis ravi de ce qui se passe en ce moment par rapport au tram. C'est-à-dire, on laisse la voiture, on est un peu comme à Bordeaux. On laisse la voiture au parking et on se balade en tram. Mmh. Et on va de la gare au Pérou. Et pour moi, c'est une richesse. J'ai vu Bordeaux depuis longtemps, parce qu'on faisait des salons à Bordeaux, mais se modifier grâce au tram. Aujourd'hui, vraiment, je suis allé il y a 2-3 ans, c'est vraiment remarquable. On peut aller partout dans Bordeaux en tram et ça se communique très très bien. Et on circule à pied, il y a les vélos, les trottinettes, ainsi de suite. Mais pour moi, Montpellier, c'est une ville qui est en train de se modifié par rapport à la communication, c'est-à-dire à la circulation.
La manière de vivre dans la ville.
Oui. Je pense que c'est dur pour nous, Montpellierains. On avait l'habitude d'aller en voiture à l'intérieur de Montpellier, dans notre garage, et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, il faut modifier cette façon de communiquer et, en tout cas, d'avoir de circulation. Et je pense que Michael Delafosse a du travail et il le fait très, très bien. Avec Julie Frêche, mais pour moi, je les encourage parce que j'ai vu Bordeaux se modifier. Je veux que Montpellier se modifie parce qu'on a besoin d'un centre-ville communicant et on n'est pas obligé d'aller en voiture devant le magasin.
On y reviendra, mais ce que vous avez décrit, me semble-t-il, c'est le fait que le vin a trouvé dans la ville de Montpellier une place qu'il n'avait pas vraiment autrefois. Parce que bon, il y avait à l'époque, bon, maintenant révolu, de Narbonne, capitale du vin pur, Béziers, capitale du vin naturel. Bon, ça c'est très ancien, mais la puissance de rayonnement de la ville, elle s'est appuyée notamment sur le vin. Donc on va en parler là, hein, Jean-Philippe Garnier. Alors, revenons à l'AOC Languedoc-Roussillon. Et d'abord, pour les auditeurs, des consommateurs qui sont un peu perdus, quelle différence entre AOC, appellation d'origine contrôlée, et AOP, appellation d'origine protégée, et en quoi, je dirais, ça vous concerne, vous,
voilà. C'est pas compliqué, parce que c'est tout à fait simple. En 2011, quand il y a eu des changements au niveau européen, toutes les AOC sont passées AOP. Mais on avait le temps pour que les bourguignons s'appellent AOP.
Ah, d'accord.
Le temps. Les produits agricoles sont tous passés en AOP. Picpoul de Pinet a demandé l'AOP, ils ont eu l'AOP. Le Pic Saint-Loup a demandé l'AOP, ils ont eu l'AOP. Mais quand on demande l'AOP, on a l'AOP. Appellation d'origine protégée, moi je préfère. Oui. Appellation d'origine protégée qu'appellation d'origine contrôlée.
Le mot est plus explicite.
Ben oui. Je protège l'appellation, je protège mon terroir, je protège mon paysage. C'est ça le vin, c'est la protection. C'est pas simplement glou-glou, c'est bon, c'est pas bon. C'est que Saint-Chinian existe, Faugère existe, Pixenloup existe, Terrasse du Larzac existe, Grès de Montpellier existe, parce qu'il y a des appellations et que l'on protège. Appellation d'origine et protégée. Contrôler, oui, le contrôle, ça va, ça suffit. Le contrôle.
Oui, c'est un côté administratif là, qui vous paraît, comment dire, peu attractif quand
tout,
tu finis.
Tout à fait. En plus, bon, le contrôle, il y en a de partout. On tombe sur les contrôles, on ne fait que de l'administratif, alors qu'en fin de compte, on a besoin plus de communication et de remettre les jeunes. Vous parliez tout à l'heure des jeunes, et je pense qu'il faut aller vers eux pour leur montrer qu'en fin de compte, le vin, ce n'est pas qu'une simple boisson, mais il y a toute une culture autour. Et je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent être intéressés par la culture, l'histoire du vin. Et Montpellier, avec Supagro, je connais bien la directrice des écoles d'agronomie de France, elle était directrice à Montpellier, et je connais beaucoup d'agronomes, et je pense qu'elle joue un rôle capital dans la reconnaissance et dans la connaissance au niveau des cépages méridionaux, des cépages anciens. Je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose une recherche très très importante qui n'est pas reconnue. On dit Bordeaux. Non, Montpellier joue encore un rôle capital sur la sécheresse, sur les cépages résistants, sur les cépages patrimoniaux.
Et je veux dire, le Supagro et l'INRAE.
L'INRAE, c'est sûr. L'INRAE, que ce soit même au CIRAD, il y a des gens qui travaillent un peu sur des notions aujourd'hui très importantes. On peut se poser des questions sur le vin aujourd'hui par rapport à la consommation du vin. On voit qu'elle baisse. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des idées nouvelles à apporter à notre terroir, des idées nouvelles à apporter à l'agriculture. Et je crois qu'on est bien placé à Montpellier avec Supagro et avec toutes les écoles qui travaillent autour de ce sujet-là.
Alors, la récolte de cette année, là, chez vous, là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment se présente-t-elle ?
Alain, c'est
quantité,
quelque chose.
En qualité, j'ai les deux critères généralement pris en compte. Oui.
On va avoir un petit problème de quantité. Parce qu'il y a eu cette sécheresse, il y a eu ces 4 jours de chaud, il y a eu vraiment quelques problèmes dans certaines régions. Alors, je pense que cette année, pour moi, c'est le millésime exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a les extrêmes. On va avoir l'excellence, oui. Et on va avoir les gens qui n'ont pas grand-chose, c'est-à-dire moins 30, moins 40, moins 50% de récolte. Donc, dire le millésime comment il est, c'est difficile.
Oui, c'est
dans,
ça. Bon, en plus,
dans l'excellence, les vieux cépages, ce que je peux dire, que le terroir a été qualitatif, c'est-à-dire que le bon terroir profond, les vieux cépages, avec un enracinement profond, avec une culture adaptée, on a réussi. Il y a encore des vignes qui n'ont pas été ramassées parce qu'elles sont bien mûres. Et ça, c'est joli, c'est très joli. Après, les gens qui ont eu 150 mm d'eau, dans l'année, c'est-à-dire du mois de novembre jusqu'au mois de juin-juillet, qui ont pris malheureusement 250 mm d'eau d'un coup, c'est pas possible. Là, aujourd'hui, on peut se remettre en question là-dessus. Si il ne pleut pas au mois d'octobre ou novembre, on va se poser de grosses questions sur les nappes phréatiques. Donc, là-dessus, il faut être conscient. L'irrigation, c'est un sujet, mais c'est 10%, 15% de notre viticulture. C'est rien du tout. On ne pourra pas irriguer 20, 30, 40, 50%. Récupérer de l'eau, oui, mais on ne pourra pas le transmettre.
La solution, c'est là.
Non, on n'y arrivera pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a des cépages patrimoniaux, on a des cépages patrimoniaux résistants qu'on a perdus au phylloxéra, qui résistent bien, les carignans, les cinceaux, je dirais même, il y a des gens qui ont des vignes d'Aramon qui ont très bien résisté à la sécheresse, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'Aramon, mais le cinceau est un cépage porteur, le carignan aussi. Et aujourd'hui, ces cépages-là ont besoin de moins d'eau que d'autres. Donc voilà, par rapport à la récolte, j'ai goûté déjà pas mal de choses. Il y a des choses vraiment superbes. On aura de la rondeur du gras, du fruit. Et alors, c'est un peu mûr, c'est vrai. On a des arômes, un peu de maturité.
On a peut-être... Donc des vins un peu moins légers, un peu moins...
C'est des vins assez fins, mais avec peut-être quelques dixièmes d'alcool supérieur par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, on avait une récolte un peu importante. Et cette année, on aura une petite récolte. Voilà. Petite récolte, qualité jolie, jolie qualité. Je pense que c'est important de voir ce millésime 2023 d'un bon œil.
Très bien. Alors, on a un peu évoqué, mais là où c'est Languedoc compte 12 dénominations différentes, dont 4, sauf erreur, dans la métropole de Montpellier, Grès de Montpellier, La Mégenelle, Saint-Dréséry et Saint-Georges-d'Auc. D'une manière plus générale, quelles sont les caractéristiques du vignoble? Bon, vous avez dit qu'il y avait une grande diversité. Et les caractères des vins, tels que les promeut votre nouvelle campagne de communication, qui s'appelle « Vin vibrant, vin vivant ». Alors, « vin vibrant, vin vivant », dites-nous de quoi il retourne.
Oh, je pense que donc Stéphanie Doma, qui est notre nouvelle directrice et qui a géré avec les vignerons et notre interprofession à Narbonne, et avec l'agence de communication, je crois que c'était les deux termes, moi, qui m'ont fait plaisir, parce que vibrant, le vin est vibrant, oui, on a besoin des vibrations aujourd'hui.
Ça raconte quoi? De la passion,
la vibration,
de l'enthousiasme.
Quand vous avez une vibration, c'est pas parce que le train est passé à côté. Il y a quelque chose qui vibre en interne, et je crois que c'est ça qui est important dans le vin. Quand j'ai le goût du vin qui me rappelle mon enfance ou le voyage que j'ai fait dans tel pays ou dans telle région, je commence un peu à vibrer. Et vin vivant parce que on a des vins. Le vin est une matière vivante. Elle n'arrête pas de vivre. On a dans le temps des vieux millésimes qui sont superbes. Et on a oublié dans la région que les vins pouvaient se garder, et certains peuvent se garder. Les vins d'appellation d'origine contrôlée sont faits pour ça aussi, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, j'ai eu la chance de déguster 30 ans, 40 ans. Il y a encore des vins vivants à ce stade-là.
Qui tiennent
mais oui, mais oui. Alors, il faut les conserver dans de bonnes conditions, mais je crois qu'aujourd'hui, les vignerons... j'en nommais un tout à l'heure, mais au château au domaine Montcalmès, ou Cadémoura, ou Masbruguière dans le Pic Saint-Loup, ou Clomary, ce sont des classiques, mais des très très bons. Quand on déguste des vieux millésimes chez eux, quand on a la chance de pouvoir les déguster, je peux vous assurer que c'est vibrant. Et puis, on sent que c'est vivant. Et aujourd'hui, on a besoin du vivant, parce que je crois que pendant 30 ans ou 40 ans, notre agriculture a oublié le vivant. On a mis un peu quelques produits qui n'étaient pas du tout adaptés à l'écologie, pas simplement à l'écologie, à l'environnement. Et on a oublié les petits insectes, on a oublié les oiseaux, on a oublié les vers de terre. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose dans l'AOP Languedoc qui a changé, c'est de passer, je dirais, au vivant et au vibrant. Donc si on n'est pas vivant, on n'est pas vibrant. Et si on vibre, c'est qu'on est vivant. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant. Bon. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut communiquer pendant quelques années et faire venir les gens, justement, pour qu'ils vibrent et qu'ils soient vivants.
Alors, on poursuit notre échange. J'avais une question en caractère plus général. Quelles sont, selon vous, les grandes mutations que connaît la viticulture languedocienne dans sa production et sa commercialisation en raison des changements, celui que vous avez évoqué, le climat, et les changements aussi des modes de consommation du vin, là. Comment les viticulteurs, les vignerons s'adaptent-ils?
On a connu, nous, les années 80. Hein. Moi, j'étais jeune, mais je les ai connus parce que j'avais des vignerons autour de moi. On a manifesté, il y a eu beaucoup de casses dans les années 70-80. Je crois qu'on n'en est pas là. Je crois qu'aujourd'hui, on a voulu mettre de la vigne partout. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Je crois que la consommation du vin baisse. On ne boit pas 5 litres de vin par jour. Ça, tout le monde est conscient, tout le monde le dit. Aujourd'hui, on boit du vin pour autre chose. Donc, c'est la culture autour du vin. C'est l'histoire du vigneron.
C'est la fête aussi, peut-être.
Alors, j'y venais, mais c'est la fête, c'est la balade. On a créé les balades vignerons dans le Pic Saint-Loup. Enfin, le Pic Saint-Loup, aujourd'hui, a 21 ans de balades vigneronnes. Et les balades vigneronnes du Pic Saint-Loup, c'est quand même quelque chose qui attire 3000 personnes dans un week-end à des prix assez, assez élevés. Mais les gens sont heureux, heureux de découvrir. Donc, je crois que notre terroir, il est là. On change de communication. Oui, on ne vendra pas 12 millions d'hectos comme on a pu le vendre. D'abord, on ne les vend pas, on n'en vend que 9 millions. Mais on en produit 10 ou 11 ou 12. Et donc, aujourd'hui, oui, on va baisser notre consommation. Il faut qu'on trouve un autre modèle de viticulture, d'agriculture, excusez-moi. La viticulture restera dans des zones, mais il faut aussi aller vers les jeunes, aller vers le consommateur. Ce qu'on a fait avec les balades vigneronnes, il y en a à La Clap, à Narbonne, il y en a à Sommières, chez moi, dans mon secteur, il y en a dans les terrasses du Larzac, il y en a à Pézenas, il y a des estivales. Donc l'été, le soir, on va vers les jeunes pour leur faire boire un verre de vin. Et aujourd'hui, c'est vraiment un combat. Et je n'ai pas peur de dire que la bière risque de remplacer le vin. Je ne veux pas. Et ça, tout le monde, les gens me connaissent. Et je n'ai pas peur de le dire à la radio, je n'ai pas peur de l'écrire. Le vin, c'est une boisson conviviale, bon, c'est un terme qu'on emploie souvent, culturelle, et où il y a toute une histoire. Et racontons aux consommateurs l'histoire. Et une fois qu'ils boivent de l'histoire, de la culture et du paysage, ils boivent autre chose qu'une boisson avec des tanins, des odeurs et de l'alcool.
Très bien. Alors, aux auditeurs et aux consommateurs d'en juger. Alors, parlons quand même des activités de l'AOC, bon, notamment son siège, hein, je veux dire, la maison des vins, donc installée au Mas de Saporta, à Latte, mais aux portes de Montpellier. Quelles sont les principales activités que propose la maison des vins?
Alors, nous avons créé, d'abord, la maison des vins, c'est Jean Clavel qui a créé cette maison des vins, en 1987, et donc on en est presque à 40 ans. Et donc c'est une idée géniale. Il avait 20 ans d'avance, Jean Clavel, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Il fait ses 30 km de vélo tous les matins. Et c'est un homme que j'admire et qui m'a fait changer un peu de voie, parce que j'étais docteur en pharmacie. Et cette maison des vins, il y a un caveau de vente, il y a une salle de dégustation et un restaurant. Donc on peut aller en salle de dégustation, apprendre à déguster. Aujourd'hui, il y avait 13 personnes qui passaient un diplôme important au niveau du vin. Ils vont au restaurant manger des produits régionaux et puis ils peuvent aller à la boutique chercher du vin. Donc, il avait fait ça en 1987. Donc, c'est très important de voir ce qui se fait. Aujourd'hui, on a une école des vins.
Qu'est-ce que c'est alors, l'école des vins?
L'école des vins, j'étais un peu à l'initiative parce que on voyait beaucoup de groupes. Il y a des gens depuis une vingtaine d'années s'intéressent au vin. Des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des gens qui disent « Tiens, j'aimerais savoir ce que c'est ». Et donc, on faisait des cours du soir, et puis on a structuré, on a fait une école des vins, parce que ça marchait très bien. Donc aujourd'hui, on forme des cavistes, ce matin, il y avait des gens qui vendent des bouchons, qui viennent apprendre les vins du monde entier, mais aussi le Master Level, qui est une formation sur les vins du Languedoc, de Nîmes à Collioure, avec les IGP, les AOP. On explique tout ça, toute l'histoire du vin. C'est capital pour nous de former. Et le grand public, on a ouvert une antenne. D'ailleurs, je vous invite à venir le 5 octobre pour venir déguster. On ouvre à Gazette Café, parce qu'on s'est aperçu que les Montpelliérains aimaient bien venir en tram et repartir en tram. Une fois qu'on a un peu bu, au moins, on n'est pas obligé de prendre sa voiture. Bon, on ne boit pas beaucoup, mais bon, il vaut mieux. Voilà. Et on ouvre ça au Gazette Café. On a une salle spéciale.
Une fois par semaine
Tous les premiers jeudis.
Tous les premiers jeudis du mois.
Du mois et le troisième jeudi du mois. Donc, on a
18h, quelque chose comme ça.
Voilà, 19h, un béaba, c'est-à-dire en initiation à la dégustation, et après une initiation en accord mets et vins, parce qu'on s'est aperçu que c'est bien aussi de montrer que sur des chuchis, on peut prendre du vin blanc, du vin rosé, du vin rouge, et fromage, chocolat, enfin, accord mets et vins sur des tapas aussi. Donc, on a tout ça qui va être ouvert à partir du début octobre. Donc, on a une conférence de presse le 5 octobre à la Gazette Café. Voilà un peu Saporta. Saporta, c'est les estivales l'été. C'est deux soirs, le mardi et le jeudi.
Alors, rappelez, donc, beaucoup de Montpellierains ont connu les estivales pendant une quinzaine d'années donc, sur l'Esplanade. Bon, cette formule est passée. Le Covid était aussi passé par là. Les estivales, nouvelle formule. Pas seulement dans plusieurs communes de la métropole. Dites-nous en deux mots ce dont il s'agit, parce que le temps file, là, on n'aura pas le temps de parler de vos projets.
Bon, alors, les estivales, c'est simplement le lien entre les produits régionaux, les oignons doux des Cévennes, la charcuterie, le fromage, tout ça, et les producteurs, le vin. Donc, les gens prennent un ticket, un verre, ils ont le droit de déguster deux verres de vin de 10 centilitres. Donc, ça, c'est les estivales à Saporta, Sommière, ainsi de suite. Et cette année, depuis deux ans, Michael de la Fosse a créé Au Millésime avec Roger Yannick Chartier au domaine d'eau avec tout un milieu culturel, cirque, jeux pour enfants, musique. Oui. C'est vraiment quelque chose dont je rêvais parce que au vin, on associe de la culture. Il n'y a pas que le vin et les produits. Donc là, il y a vin, produits régionaux et culturels.
Donc c'est au millésime,
au millésime. Alors c'est trois fois. C'est trois week-ends dans l'été. Le soir, au domaine d'eau, c'est vraiment remarquable.
Donc, le site en plus.
Oui, il y a toujours 2000 personnes qui viennent pour des prix corrects, des choses simples, mais bonnes. Et les spectacles sont remarquables. On a vraiment, au domaine d'eau, une équipe, je ne donnerai pas tous les noms, mais une équipe remarquable qui donne envie de boire du vin. Les vignerons peuvent s'exprimer. Et c'est le contact entre le consommateur, le vigneron et le producteur. Tout ça, c'est C'est ça, une estivale.
Alors, rapidement, 50 fois le temps file. Un mot d'abord, parce qu'il y a deux livres en préparation. Vous pouvez nous en dire un mot, là, parce que vous parliez un peu d'enracinement par l'histoire, de connaissance du terroir. Hein. Quels sont ces deux livres et en quoi vont-ils contribuer à cette connaissance?
On s'est aperçu qu'en communication, on avait le livre de Jean Clavel des années 94-95. Et donc, on s'est dit qu'il fallait revoir un peu tout ça. Donc, on a fait travailler Stéphane Monet, qui est un archéologue reconnu du côté de Pézenas et dans la région, et qui va nous travailler sur les vins de l'Antiquité. Alors, depuis 30 ans, les recherches sont énormes. Donc, on va les remettre dans un petit livret. Ce sera des petits livrets d'une centaine de pages.
Livre grand public, appuyé sur des
grand
recherches
public,
historiques.
Tout à fait. Ensuite, il y a Marc Medevielle, qui est un ancien journaliste de Midi Libre, qui avait créé Terre de Vin, qui écrit l'époque du Moyen-Âge, jusqu'en 1985, à la naissance de l'appellation. Et ensuite, on a une personne qui va écrire, de 1985 à maintenant, tout ce qu'on a pu faire en communication, mais aussi en hiérarchisation, quand on a créé les terrasses du Larzac, quand on a mis Picpoul de Pinet en appellation, quand on a créé le terroir Grès de Montpellier, l'AOP Grès de Montpellier. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc tout ça, c'est important. Et la deuxième outil de communication, c'est Chemin du Languedoc. Alors ça, j'y travaille depuis avant le phylloxéra.
Pas tout à fait.
Avant le Covid. C'était pareil pour moi, c'était le Covid. Avant le Covid.
Le Covid, c'est le phylloxéra.
Voilà, c'est un peu le phylloxéra, oui. Si ce n'est que le phylloxéra, on l'a encore, mais le Covid, on l'a plus. Enfin, presque plus. Et donc là, on a Chemin du Languedoc. C'est un chemin qui part de Nîmes et qui va à Collioure et qui passe par les chemins de randonnée. Donc la Fédération française de randonnée nous aide beaucoup.
Bernard Morin, faire Nîmes-Collioure, bon, en plusieurs étapes. Donc.
En plusieurs étapes, un peu comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, oui, ou de Saint-Guyen, ou de Stevenson. Mais c'est un chemin. Donc, c'est, en fin de compte, on va relier plusieurs chemins. On ne va pas créer un chemin. Hein. On va relier plusieurs chemins. Et là, on était un peu dépassé par l'histoire du Covid. Mais on a des personnes comme Bernard Morin qui sont partis à la retraite. Mais il y a son directeur qui est remarquable, Thomas, et qui va nous aider. Parce que bon, j'espère, moi, le faire d'ici un an et demi. C'est un chemin qui va faire connaître l'arrière-pays, qui va passer obligatoirement dans des vignobles remarquables, que ce soit...
D'un équivion et devant des caveaux aussi, je suppose.
Vous savez, quand on marche beaucoup, on commande et on a les vins à l'arrivée. Normalement, les marcheurs ne boivent pas en marchant. Mais bon, c'est quand même une très belle idée. Chemin du Languedoc, c'est pour communiquer sur les AOP du Languedoc, parce que l'AOP du Languedoc aujourd'hui, c'est entre Nîmes et Collioure. Même dans le Roussillon, on peut faire de l'AOP du Languedoc.
Donc c'est une espèce de Via Domitia du vin, en quelque sorte.
Exactement. Je ne voulais pas le dire, mais c'est la Via Domitia.
Je le dis pour vous.
On est dessus. On sera un peu plus haut que la Via Domitia, parce qu'on va passer dans la garrigue.
Très bien. Alors, Jean-Philippe Grandier, on arrive au terme de notre émission. Une dernière question. Quand on a préparé l'émission, vous avez dit j'ai trois enfants, donc deux fils qui sont dans le vin. Tiens donc, un, vous l'avez évoqué, qui en a aussi voisine les terrasses du Languedoc, et un autre négociant, terrasse de Larzac, pardon, ouais. Et l'autre un négociant en Bourgogne, une grande région viticole française. Est-ce que cette filiation est la démonstration, mais vous l'avez faite au micro, de votre capacité à transmettre la passion du vin, parce que vous l'avez transmise à vos fils, et vous...
Je suis né dedans, hein, je suis né dedans, mon père me mettait souvent à la cave. Moi j'ai mis le premier fils, il a bâtonné rapidement les barriques à l'âge de 3 ans, il mettait l'eau dans les barriques, il goûtait. Le deuxième, il a fait le tour du monde au niveau des vins, et donc il travaille pour un négociant en Bourgogne, et l'autre travaille dans les terrasses du Larzac, les vignes oubliées, qui sont très connues, et je suis admiratif de ce qu'il fait, parce que c'est très très bon. Et vraiment, il reflète bien le terroir au niveau de ses vins.
Donc vous êtes fier de vos enfants?
Très, très fier. J'en suis ému.
Très bien. Je vous remercie, Jean-Philippe Granier. Et dans le prochain rendez-vous de Racontez-nous votre Montpellier, c'est Noémie Bernède, la nouvelle directrice du cinéma Diagonale. À bientôt.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qu'ils figurent ou pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarrobe.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.